Mola, archive sonore.
Je crois qu'il n'est pas très utile de présenter François Furet. Comme vous le savez, c'est l'historien de la Révolution depuis la publication de sa première Révolution il y a 30 ans, très exactement. Il est même venu pour cette cause chasser sur nos terres il y a 5 ans, puisqu'il avait coordonné à Saint-Émilion un colloque sur la Gironde et les Girondins, dont il me disait à l'instant qu'il avait gardé un excellent souvenir et qui a donné lieu à un bouquin, d'ailleurs publié chez Payot en 91, qui reste unique en son genre pour la connaissance des différents Girondins. Mais aussi François Furet, depuis toujours, n'est pas resté qu'universitaire, si je peux opposer ces deux termes. Il est aussi ce qu'on appelle un intellectuel, et c'est-à-dire qu'il se mêle activement au débat d'idées, au débat d'actualité, que ce soit dans le Nouvel Observateur ou dans d'autres publications. Et le livre qui nous réunit aujourd'hui emprunte à cette double démarche de François Furet. Il a choisi, avec modestie ou prudence, peut-être nous le dira-t-il, de qualifier d'essai ce qui est, malgré tout, l'histoire de cette illusion, à savoir l'idée communiste. Et à bien des égards, son livre, par son ampleur, son élégance, puis la virtuosité de ses croisements culturels, est certainement un modèle de l'histoire des idées. Et en même temps, le livre est aussi un appel pressant à un débat, à la réflexion sur la permanence de ce qu'on pourrait appeler la demande démocratique. C'est pourquoi je suggérerais que nous profitions de la présence de François Furet pour nous garder deux moments dans ce débat. Un premier dans lequel il nous éclairait, et grâce à vos questions aussi, sur la thèse qu'il défend dans cet ouvrage. Et un second, à la lumière de cette réflexion sur le passé de l'illusion communiste, peut-être qu'on se projette aussi un peu sur les débats idéologiques de l'heure, les perversions de la démocratie ou d'idéal démocratique qu'on peut trouver du côté de la purification ethnique, peut-être aussi à certains égards, du côté du fondamentalisme islamique, toute question d'actualité. Alors, pour aborder le débat sur le livre de François Furet, je vais lui demander d'abord de nous expliquer son titre, c'est-à-dire pourquoi l'illusion et pourquoi le passé.
Eh bien, bonjour, mesdames et messieurs. Je suis toujours très heureux d'être à Bordeaux et donc très heureux d'être avec vous ce soir. Le passé d'une illusion, c'est un titre, effectivement, que j'ai trouvé et que j'ai défendu contre mes éditeurs qui auraient préféré la fin d'une illusion. Alors d'abord, il y a la référence à Freud. Freud a écrit, comme vous le savez, un livre qui s'intitule « L'avenir d'une illusion ». Il s'agissait, dans le livre de Freud, de la religion. Freud est sur ce plan-là, pense comme un positiviste du 19e siècle et a fait un livre sur l'avenir d'une illusion, indiquant, disons, les ressorts psychologiques profonds qui font vivre à ses yeux la religion. Et moi, j'ai voulu faire écho à Freud pour donner son sens fort au mot illusion. Dans mon titre, illusion, ça veut dire espérance, et ça veut dire une espérance dotée d'un fort investissement psychologique. C'est vraiment c'est pas simplement une illusion, quelqu'un qui se trompe sur quelque chose. C'est quelque chose de très fort. C'est une représentation psychique très forte. Et j'ai préféré le passé à la fin parce que je ne crois pas que l'illusion est morte. Je crois que sous la forme où elle a eu lieu au XXe siècle, elle est morte, c'est-à-dire il y a des idées qui sont mortes avec l'Union soviétique, comme l'idée de la classe ouvrière véhiculant une mission spéciale dans l'histoire universelle, ou le parti avant-garde muni d'un savoir particulier sur l'histoire. Je pense que ça, nous ne le reverrons plus dans l'histoire humaine. Mais je pense que les sociétés où nous vivons ont une pente utopique, c'est-à-dire qu'elles affichent sur leur drapeau que nous sommes libres et égaux, mais comme nous ne sommes jamais assez libres et assez égaux, la tendance du citoyen moderne est toujours de faire appel des malédictions de la société présente à une société meilleure dans l'avenir qui nous délivrerait des maux de la société présente. Il y a dans tous les citoyens démocratiques aujourd'hui un fort investissement sur la société comme le lieu de son malheur ou de son bonheur. Par conséquent, je crois que au XXIe siècle, après moi, après nous, même après les jeunes d'ici, il y aura constamment cette espèce de travail de l'imagination qui fabriquera, je dirais, de nouveaux horizons à la société. Alors moi, ce que j'ai voulu faire est plus réduit. C'est pour ça que j'ai mis le passé, c'est une illusion, parce que le communisme a été au XXe siècle une réalité extrêmement forte, d'une puissance émotive et intellectuelle incomparable dans le siècle. Et c'est en même temps une fascination qui aura duré très peu, qui aura duré 70 ans, ce qui pour un historien n'est rien du tout. C'est à la fois une croyance, une idée, une image de l'avenir qui s'est étendue dans l'univers plus qu'aucune idée occidentale avant lui. C'est-à-dire que le communisme a pénétré dans des régions de l'univers où même le christianisme n'avait pas pénétré, comme le sud-est asiatique, par exemple, ou avait peu pénétré. Autrement dit, vous avez une extension de cette idée, qui est une idée, disons, franco-anglo-allemande, au XIXe siècle. Et en même temps, elle est extraordinairement éphémère, elle est morte. Elle est morte sous nos yeux, dans des conditions d'ailleurs que personne n'avait prévues, et qui sont encore largement énigmatiques. Voilà la question du livre. Comment se fait-il que cette idée ait été si puissante et si éphémère? Comment se fait-il qu'elle ait traversé pavillon haut un siècle où elle a donné lieu à tant de tragédies? C'est au fond, il me semble, c'est une des choses les plus difficiles à comprendre du monde dont nous sortons.
Alors peut-être que pour avancer dans cette compréhension, on pourrait démarrer sur les racines, les origines, les sources de cette naissance croisée de l'illusion communiste qui est au cœur de votre ouvrage, et puis de cette autre, pour reprendre votre expression, pathologie passionnelle qu'est le fascisme.
Oui. Le fond du charme, au sens profond du terme, au sens latin du terme, le fond du charme de l'idée communiste au XXe siècle, c'est la révolution. C'est l'idée révolutionnaire. Les Français n'ont pas de mal à comprendre ça, parce que les Français vivent dans la familiarité avec l'idée révolutionnaire depuis 200 ans. Et même les Français, très souvent, ont du mal à séparer l'idée démocratique et l'idée révolutionnaire. Ils ont tendance à mettre ensemble les deux, puisque dans notre histoire à nous, Français, la démocratie est née avec la révolution. Par conséquent, le charme de l'idée communiste vient de ce qu'elle a su capter au XXe siècle, l'héritage de l'ambition révolutionnaire. Former une société bonne, former un homme nouveau, c'est pas délivrer des passions mauvaises, délivrer de l'inégalité, ayant avec ses semblables des relations plus transparentes. Autrement dit, vous voyez très bien ça naître en 1917, en 1918, aussitôt après la Première Guerre mondiale, vous voyez la gauche européenne tisser un lien entre la tradition française de 93, des Jacobins, et la tradition russe, si bien qu'il y a une sorte de manière d'apprivoiser l'excentricité de l'événement russe, parce que c'est quand même un événement qui est à la périphérie de l'Europe, dans le pays le plus improbable pour une idée moderne, la Russie. Et vous voyez que cette idée, cette excentricité russe est apprivoisée à travers le précédent français. le précédent français lui donne une allure, l'illusion que quelque chose qui est familier à la démocratie moderne s'est produit là-bas. C'est d'ailleurs, finalement, c'est très curieux, parce qu'il faut se souvenir que octobre 17 ne met pas fin au tsarisme russe. Octobre 17 met fin à février 17, c'est-à-dire met fin à la démocratie russe. Met fin aux 6 mois de démocratie révolutionnaire qu'a connu la Russie, et que le premier acte de Lénine, c'est de dissoudre l'Assemblée constituante. Or, malgré cela, il y a incontestablement dans la gauche européenne de cette époque, je dirais, quelque chose qui naît, que j'essaie d'écrire dans mon livre, qui est la fascination de l'idée révolutionnaire, d'une société d'avant-garde. Et en plus, n'oubliez pas que tout le mouvement socialiste au XIXe siècle en Europe avait préparé les esprits à cette idée qu'un jour, la Révolution française se poursuivrait par une révolution qui en accomplirait enfin les promesses, c'est-à-dire qui rendrait enfin réelles les libertés formelles proclamées par la Révolution. Alors, ce qui se passe à cette époque, en même temps que, ou presque en même temps qu'octobre 17, tout juste après, et les lendemains de la guerre de 14, c'est que naît une autre idéologie révolutionnaire à droite. Il faut vous souvenir que la droite européenne, la France entre autres, mais en Europe c'est la même chose, la droite européenne au XIXe siècle est contre-révolutionnaire. C'est-à-dire elle voudrait remonter à rebrousse-poil l'histoire. Elle voudrait effacer de l'histoire la Révolution française et ses suites. Et être contre-révolutionnaire, c'est une impasse ou une absurdité logique, parce que ça veut dire, d'une certaine manière, remonter l'histoire jusqu'à avant la Révolution, et ça veut dire remonter l'histoire jusqu'au point d'où est née la Révolution. Remonter l'histoire vers un ancien régime, d'où précisément est sorti ce qu'on combat. Autrement dit, une des malédictions qui a pesé sur les droites européennes au XIXe siècle, c'est l'idée contre-révolutionnaire. Et j'ai tendance à penser que l'originalité du fascisme dans l'histoire des droites en Europe, c'est de récupérer l'idée révolutionnaire au profit de la droite. Non plus l'idée contre-révolutionnaire, il ne s'agit plus seulement de lutter contre. Il s'agit aussi pour les fascistes de refaire une vraie communauté, au-delà de l'individualisme bourgeois, du mercantilisme, du matérialisme, de la civilisation moderne. Il s'agit pour le fasciste de réinventer une communauté nationale, délivrée des malédictions aussi de la civilisation bourgeoise. C'est difficile de dire ça aujourd'hui, parce que nous vivons aujourd'hui dans un univers où depuis 50 ans, c'est-à-dire depuis 45, le fascisme a été déshonoré, à juste titre. À juste titre, puisque nous avons découvert, horrifié, les crimes dont il s'était rendu coupable. Mais il faut éviter, si on est historien, de reporter ce jugement jusqu'aux années 20 ou 30, parce que dans les années 20 ou 30, personne ne le savait, par définition. Et il faut se remettre dans la situation où le fascisme a été une poésie et un espoir. Sans ça, il n'y aurait pas eu tant de grands esprits qui ont été fascistes en 1920, dans les années 20 et 30, à commencer par le plus grand philosophe du siècle, Heidegger. Donc, mon livre tente de recomposer les deux rêves révolutionnaires face à face, qui, d'une part, se nourrissent l'un l'autre de par leur belligérance et de leur extrémisme réciproque, mais d'autre part, elles ont un ennemi commun, qui est la démocratie bourgeoise, qui est la démocratie pluraliste, qui est la démocratie parlementaire, qui est haï autant par les communistes dans la version 1920-1930, au début 1930, que par les fascistes. Et effectivement, je tente de reconstituer ce qu'on peut expliquer de ce phénomène nouveau dans l'histoire humaine, qu'a été le surgissement, après la guerre de 14-18, de grandes idéologies politiques de masse. Si vous voulez, jamais dans l'histoire humaine, avant le XXe siècle, vous n'avez eu des choses comparables. Enfin, vous avez eu des idéologies, si on accepte d'appeler la religion, ce que moi je ne ferai pas, mais on peut considérer que les religions peuvent fonctionner comme des idéologies, et le XVIe siècle européen et le XVIIe voient des guerres de religion. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Les religions, on se bat au nom de la dogmatique chrétienne, de la liturgie, de la manière de pratiquer la communion, etc. Les idéologies du XXe siècle sont différentes en ce sens qu'elles sont des investissements dans l'histoire. Elles ont en commun cette idée fausse, mais très puissante, qu'il y a une rédemption historique de l'homme, qui est une idée qui a traversé le siècle. Et elles naissent ensemble de la guerre de 14-18. Il faut bien qu'il y ait quelque chose dans cette logique de la guerre de 14-18 qui est le terreau matriciel des grandes idéologies du siècle. Et si vous me donnez encore deux minutes, j'explique pourquoi je parle de la guerre de 14-18. Je pense que on sous-estime encore dans nos travaux, dans nos interprétations du siècle et de ces tragédies, l'importance formidable qu'a eu la guerre de 14-18. En Europe, elle signe d'ailleurs le déclin de l'Europe, dans laquelle nous sommes encore, mais c'est en 14-18 que quelque chose se détruit complètement de ce qu'a été la prépondérance européenne au XIXe siècle. Qu'est-ce que cette guerre de 14-18 a de si particulier dans l'histoire humaine ? D'abord, elle est la première guerre démocratique de l'histoire, au sens où tout le monde y va. Ce qui n'est pas vrai des guerres de la Révolution et de l'Empire, qui sont des guerres de conscrits, et d'ailleurs sont des guerres qu'on fait à l'ancienne manière, c'est-à-dire on ne fait pas la guerre l'hiver, on prend ses quartiers d'hiver, on fait des campagnes, on remporte des batailles. Les guerres sont limitées dans le temps. La guerre démocratique, tout le monde y va. L'arrière l'a fait comme l'avant. On crétinise les esprits pour les préparer à la guerre. Il n'y a rien de plus bête que la presse française ou la presse allemande en matière culturelle dans ces années-là. On place les nations dans un état de soumission absolue vis-à-vis de l'État et de l'armée. Ça, c'est très important aussi dans l'apprentissage de la servitude, la guerre de 14. Donc c'est une guerre qui a ses caractères. Secondo, elle est industrielle, ce qui était prévisible, mais ce que personne n'avait vraiment vu, puisque on a dépensé en un mois, en août 14, les provisions de munitions qui avaient été faites pour un an. Les états-majors, au bout d'un mois, se sont trouvés stupéfiés devant la consommation d'armement qui avait été multiplié par 10. Et du coup, vous avez une échelle du massacre qui est inédite dans l'histoire de l'humanité et des guerres précédentes. Les gens qui sont partis à la guerre de 14, ils avaient comme exemple la guerre de 70. Et par conséquent, ils pensaient, comme toujours quand on part à la guerre courte. Ils sont tombés sur une guerre industrielle, donc affreusement meurtrière, sanglante. Et puis le dernier caractère, c'est qu'elle est infinissable. Pourquoi ? Parce qu'à partir de la bataille de la Marne, au début septembre 14, la retraite de Charleroi et la bataille de la Marne, où les Français s'accrochent au terrain et arrêtent l'offensive allemande, les soldats sont enterrés dans les tranchées et il faut faire tuer 3000 hommes, 5000 hommes, 10000 hommes pour gagner 300 mètres. Et sans qu'on puisse gagner la guerre pour longtemps, et croyez-moi, les autorités de l'époque, les républicaines comme les autres, n'ont pas été ménagères du sang des soldats. Donc vous avez une guerre qui devient tout de suite dont on ne voit pas la fin parce que les forces s'équilibrent. Et la guerre est d'autant moins finissable qu'elle est meurtrière parce que vous ne pouvez pas faire comprendre au peuple qui ont consenti tant de sacrifices qu'on va terminer une guerre si meurtrière par une paix de compromis. Si bien qu'au fur et à mesure que la guerre de 14 dure, elle peut moins se terminer, parce qu'elle ne peut se terminer que par une reddition inconditionnelle, qui est une idée absurde, parce que l'idée intelligente, c'était naturellement la paix de compromis. Et la guerre s'est terminée, effectivement, après l'intervention américaine, par la reddition inconditionnelle, mais la guerre s'est terminée par la chute de 4 empires, l'Empire ottoman, l'Empire russe, l'Empire austro-hongrois, l'Empire allemand, qui ont créé dans l'Europe des survivants de la guerre une situation extraordinairement révolutionnaire. Et autrement dit, il faut, pour comprendre le XXe siècle, il faut redonner au conflit de 14-18 tout son pouvoir de subversion de l'ordre traditionnel. Je crois que c'est très très important. Vous ne pouvez pas regarder le siècle et ce qui s'y est passé ensuite. Et vous êtes quand même frappé que le bolchevisme et le nazisme sont à leur manière des idéologies qui donnent un sens à la guerre. C'est-à-dire alors que les bourgeois libéraux ou les sociaux-démocrates n'ont pas grand-chose à dire sur la guerre de 14 parce qu'ils l'ont faite sans l'aimer, ils l'ont ni la détester, ils l'ont terminée comme ils l'ont pu. Tandis que le bolchevisme a une interprétation simple, la guerre est le produit du capitalisme. C'est une des inévitabilités des rivalités entre pays capitalistes. C'est un crime des marchands de canons et des bourgeoisies internationales. Et le fascisme est une réponse aussi, parce que le fascisme est un appel de la défaite vers une victoire future. Le fascisme est l'idéologie d'un peuple humilié ou frustré qui ne retrouve pas dans la situation d'après-guerre le prix des formidables sacrifices qu'il a consentis. Si bien que je crois qu'on ne peut pas non plus comprendre Lénine, Hitler, Mussolini, l'écho qu'ils ont eu sans voir que cet écho prend sa source dans ce conflit. Dans ce conflit qui a été déclenché en 14 avec beaucoup de légèreté par des hommes politiques qui n'ont naturellement pas su dans quel avenir ils s'engageaient.
Merci. Ben avant, je voudrais vous poser encore une question avant de passer la parole à la salle. Je relèverai quand même avant que vous refusez à la religion le statut d'idéologie politique, oui. Mais que concernant les deux idéologies politiques dont vous parlez, vous employez cette expression de rédemption de l'homme.
Oui. Je suis pas très heureux avec ce mot. Je veux dire, je n'en trouve pas d'autre.
Bon.
Je suis pas très heureux avec ce mot. C'est le mot d'Aron. Il parle du communisme en disant religion séculière. Mais vous voyez bien que c'est contradictoire, parce qu'une religion se caractérise précisément par le fait qu'elle n'est pas dans le siècle. Donc le mot religion séculière est une formulation boiteuse. Moi, j'en trouve pas de meilleure. Et donc, je parle d'un investissement quasi-religieux dans la politique. Mais je trouve qu'on devrait garder, pour définir la religion, l'idée qu'elle comporte une réalité extraterrestre. Tout phénomène qui n'en comporte pas n'est pas une religion. Et dans cette mesure, ni le communisme ni le fascisme ne sont des religions puisque leur investissement est purement terrestre.
Donc un mot donc pour boucler la boucle, vous écrivez et vous montrez que le fascisme est mort vaincu et que le communisme est mort suicidé en quelque sorte. Est-ce que vous pouvez éclairer en quelques mots cette double issue?
Oui, le communisme est mort vaincu en 1945 à la faveur d'une équivoque. C'est-à-dire que la victoire de 1945 pour les peuples, ça a été la victoire de la démocratie sur le fascisme. Or, il y avait dans le camp des démocraties un pouvoir qui ne l'était pas, qui était l'Union soviétique. Ce qui vous explique que les Polonais ou les Roumains n'ont pas vécu 45 comme les Français ou les Anglais. Mais à l'époque, nous avons cette réalité, je dirais, n'était pas visible, puisque, en tout cas en ce qui concerne l'Occident, la guerre se terminait par la victoire de la démocratie. Et le fascisme a été non seulement déshonoré, c'est peu dire, mais mis hors humanité à Nuremberg, et à juste titre, puisque les crimes qu'il a commis, qui ne sont pas d'ailleurs tous pesés à leur vraie dimension dans le procès de Nuremberg en 1946, les crimes qu'il a commis l'ont fait juger très vite par le tribunal des peuples. Ce qu'on n'a pas vu aussi, c'est qu'à cette époque, le fascisme était mort, et au fond, il n'y a pas eu de régime fasciste dans l'histoire de l'humanité depuis 1945, et que toute une partie de la gauche européenne a eu tendance à galvauder le terme fascisme et à appeler fasciste tout adversaire politique. Tous ceux dans cette salle qui sont assez vieux pour s'en souvenir savent qu'à un certain moment, De Gaulle a été fasciste pour la gauche, Adenauer a été fasciste, Eisenhower a été fasciste, etc. Autrement dit, il y a eu une sorte de vulgarisation polémique de l'antifascisme qui a fait perdre au mot fascisme et au régime fasciste sa caractéristique et son, je dirais, même son horreur particulière. Et dans la dialectique historique, la liquidation du fascisme a consolidé celui dans le camp des vainqueurs qui restait un autre pouvoir totalitaire qui était l'Union soviétique. Et ça, vous le comprenez bien si vous lisez les grands écrivains russes de cette fin de siècle, comme Vassili Grossman, comme Solzhenitsyn, naturellement. Le drame des Russes pendant la guerre de 41-45, le drame du peuple russe, c'est qu'en remportant la victoire contre le nazisme, il a renforcé ses propres chaînes. Et que le régime qu'il a trouvé à la fin de la guerre, au lieu de s'assouplir, comme tout le monde l'avait un peu cru pendant la guerre, s'est renforcé. Et toute cette dimension de la réalité en 1945 a échappé à l'Occident. Ça n'a d'ailleurs pas échappé longtemps, puisque la guerre froide a commencé en 1946-1947, et que la Deuxième Guerre mondiale se termine immédiatement par la reprise d'une nouvelle guerre froide. Autrement dit, qu'il ne se termine pas comme la guerre de 14-18 par une paix, mais la Deuxième Guerre mondiale se termine par la guerre froide. Après 2 ans d'intermède, qui est la guerre froide entre les deux partenaires de l'alliance anti-nazie. Autrement dit, vous voyez toujours là où je veux en venir. Pour comprendre le XXe siècle, il faut bien comprendre qu'il y a 3 camps et pas 2. Il y a 3 camps et pas 2, et que la guerre a simplifié ces camps. Alors nous arrivons en 1945 à l'époque, je dirais, d'apothéose de l'idée communiste, puisque elle a, pour ainsi dire, forgé ses lettres de créance démocratique dans la guerre contre le fascisme, et qu'il est devenu presque impossible de comprendre même que le régime qui a vaincu Hitler est un régime qui recompose des méthodes et des procédures comparables à celle du fascisme en Union soviétique. Et l'idée est tellement forte, je termine par là, l'idée est tellement forte, l'idée communiste, le rêve révolutionnaire, qui survit donc au fait que l'Union soviétique est un empire, parce qu'après tout, à partir de 1945, l'Union soviétique n'est plus un territoire de la Révolution, c'est un vaste empire territorial qui va jusqu'à Prague, jusqu'au centre de l'Europe, et qui est d'ailleurs trop grand pour ce qu'il peut embrasser. Nous n'avons pas compris à cette époque que cette espèce d'extension territoriale gigantesque d'un régime qui avait du mal à faire tourner sa société, son économie dans la seule Russie ne pourrait pas durer très longtemps. Et nous le disons aujourd'hui, naturellement, rétrospectivement, avec ce que nous savons aujourd'hui. Alors vient là-dessus le Khrouchtchev, la succession de Staline, et la dénonciation du régime de Staline par Khrouchtchev, qui est, notez-le bien, au fond, quelque chose qui préfigure Gorbatchev. Parce qu'au fond, à deux reprises dans l'histoire de l'idée soviétique, la délégitimation du système aura été faite par le secrétaire général du Parti communiste de l'URSS. C'est pas la moindre ironie de cette affaire que les deux seules personnes qu'on aura crues sur l'Union soviétique sont les deux chefs du pays à 35 ans d'intervalle. Et Khrouchtchev porte le premier coup sérieux à la légitimité révolutionnaire de l'Union soviétique. Et c'est pour cela, à mon avis, qu'à partir de Khrouchtchev, cette légitimité révolutionnaire se balade un peu dans le monde, hors de Russie. Elle s'incarne chez Mao, elle s'incarne chez Fidel, elle s'incarne dans le Dubček, dans le communisme à visage humain. Autrement dit, vous avez une décentralisation de l'idée et des territoires qui lui servent de support, mais elle continue à vivre et à prospérer, au fond, jusqu'à Gorbatchev. Il y a une période encore toute récente, dont tout le monde se souvient, même les jeunes, milieu des années 80, les années du bicentenaire de la Révolution française, où l'anticommunisme était condamné comme une pensée vulgaire, presque primitive, peu informée. Et on s'est aperçu que la réalité était encore beaucoup plus extravagante, que les plus sévères des anticommunistes le disaient. Autrement dit, ce qui m'intéresse dans cette deuxième partie, dans la période après Khrouchtchev, c'est la survivance de l'idée communiste malgré le rapport Khrouchtchev et à travers son incarnation dans des territoires de substitution. J'interprète cela comme une sorte de volonté de survie de l'idée révolutionnaire que nous avons quittée avec regret, parce qu'après tout, c'est aussi cela qui a fait l'éclat du gorbatchevisme en Occident. Avec Gorbatchev, nous pouvions au moins sauver quelque chose du système, nous restions à l'intérieur du monde d'octobre. Avec Yeltsin, nous basculons dans le prosaïsme bourgeois, si j'ose dire. Nous retournons au monde que nous connaissons, le marché, la liberté d'entreprendre, les droits de l'homme, la séparation des pouvoirs, etc. Autrement dit, Gorbatchev a été en Occident la dernière carte d'un communisme à visage humain. Et la manière dont, à la fin de 91, il a été remplacé par Yeltsin, vous montre bien à quel point la chute finale du communisme, qui ne laisse rien debout, parce qu'il n'y a plus un principe qui soit debout, laisse nos civilisations déprimées. Vous pouvez comprendre ça si vous comparez avec la Révolution française. La Révolution française avait été aussi, dans une certaine mesure, un échec, parce qu'elle s'était terminée par l'Empire, par un régime tyrannique, parce qu'elle n'avait pas, permis de donner une substance à ses rêves d'émancipation de l'homme, etc. Enfin, bon, la fin de la Révolution française, c'est la bourgeoisie du Consulat et de l'Empire, c'est Napoléon. On peut donc considérer que, d'un certain point de vue, la Révolution est aussi, par rapport à ses ambitions, un échec. Mais si vous vous placez en 1814, au moment où la Révolution française est vaincue, où Napoléon est à l'île d'Elbe, bientôt à Sainte-Hélène, où les rois de France, les frères de Louis XVI reviennent sur le trône, donc la Révolution française est vaincue, mais elle laisse une formidable trace d'idées et de souvenirs. tous ces vainqueurs même sont obligés de s'inspirer de ces idées. Les monarques qui ont battu la Révolution française donnent des constitutions à leur peuple, sont obligés de composer avec les idées modernes, etc. Rien de semblable aujourd'hui. La Révolution russe est vaincue, la Révolution d'octobre, et même elle a disparu, mais elle ne laisse rien d'utilisable. Vous n'avez pas une idée dont la gauche ou la droite, d'ailleurs européenne, puisse se servir pour à utiliser dans nos sociétés. Autrement dit, il y a une fin de la Révolution russe qui se termine par quelque chose qui est difficile à comprendre par rapport à l'éclat dont a joui l'idée, qui est le caractère terminal de la Révolution, qui repart au fond sur des idées dont l'inventaire est connu en Europe depuis 200 ou 300 ans.
Vous-même, François Furet, c'est le rapport Khrouchtchev qui vous a fait abandonner l'illusion communiste ?
Oui, moi j'ai été communiste après la guerre, dans la période de la plus grande apogée du parti, après quelques mois de maquis dans mon adolescence. Et ce qui m'a fait... J'appartiens à une génération d'ailleurs qui a très largement été communiste, à 20 ans. Et dans ma génération, l'événement clé, ça a été, les années d'après Staline, le rapport Khrouchtchev, la révolte hongroise, polonaise, quand il est apparu que tout ça était un mensonge général. Mais là aussi, il y a un petit mystère, parce que c'est le mystère de cette fascination, c'est que les gens ne la quittent pas au même moment. C'est que elle existe depuis le début. Les Français, il y a des millions de Français qui ont été communistes à un moment de leur vie et qui ne l'ont plus été après. C'est une sorte de mythe passoire, un peu. Et les générations ne s'auto-éduquent pas. C'est-à-dire aucune génération n'éduque la précédente. Toutes les générations refont l'erreur de la précédente. Vous avez d'abord Souvarine. Vous avez ensuite Siloney, Marion dans les années 30. Ensuite, la génération Gide, Malraux, Aragon. Ensuite, la génération de la libération. Ensuite, la guerre d'Algérie. Enfin, ça dure jusqu'à tout récemment. Et ce qui est un peu mystérieux dans ces cas-là, parce que ça relève probablement des histoires individuelles, ce sont les occasions. Mais 56 a été une des grandes années de départ, un peu comme le pacte germano-soviétique. Le pacte germano-soviétique de 39 a été une coupure. La plus grande partie des intellectuels occidentaux qui étaient communistes ou communisants abandonnent. Certains d'ailleurs reviendront après, à partir de 41. Et dans ma génération, la date clé, c'est 56. C'est Khrouchtchev.
Bon, alors, à vous la parole. Je crois qu'il y a un micro qui circule, ou qui est censé circuler. Est-ce qu'il... Voilà. Qui veut poser une question à François Furet ? Monsieur, prenez le micro, s'il vous plaît, parce qu'il y a des personnes qui sont en dehors de la salle.
Est-ce que la persistance de l'idée communiste après Khrouchtchev n'a pas été due dans une sorte d'idéalisation de la période de l'utopie de Lénine et d'une utopisation, une idéalisation erronée, bien entendu, mais pour beaucoup de communistes ou d'amis des communistes, la période de Lénine était la période idéale, où il n'y avait pas eu tellement de terreur, où ça ne marchait pas si mal que ça, et on mettait tout sur le compte de Staline.
Oui, vous avez tout à fait raison. Le khrouchtchevisme, dans la mesure où il a une réalité, ce qui est quand même difficile à cerner, parce que Khrouchtchev, pour qui moi je garde une sorte de vieille tendresse, mais c'est un homme un peu primitif, un peu... Il faisait un retour à Lénine. Il faisait un retour à Lénine, un retour à la pureté. Et d'ailleurs, Gorbatchev aussi, vous vous souvenez. Tous les gens qui ont voulu condamner le stalinisme en conservant quelque chose d'octobre, sont condamnés à ça. Vous êtes obligé d'analyser le stalinisme comme une dégénérescence et de revenir au tronc initial, qui est le tronc Lénine, comme le véritable fondateur, par rapport à quoi il faut se fixer. Ce qui dit, c'est dangereux, parce que Trotsky dit la même chose aussi. Trotsky, les Boukhariniens, tous les dissidents communistes qui sont restés communistes ont tendance à se replier sur Lénine contre Staline. Et à ce moment-là, vous arrivez à des interprétations extraordinairement différentes du léninisme. Mais encore aujourd'hui, moi j'ai des gens qui m'écrivent, qui sont en désaccord avec mon livre, et surtout des boukhariniens. Vous voyez, ça existe encore. Ce sont des gens qui me disent... vous savez, Boukharine, c'était, je le dis pour les gens qui ne sont pas très versés en soviétologie, c'était un des adversaires de Staline dans la période de transition. Staline a d'abord liquidé Trotsky, et ensuite il s'est heurté à Boukharine comme droitier. Boukharine était hostile à la collectivisation des campagnes et était pour continuer la politique de compromis avec le marché. Et effectivement, si Boukharine avait gagné la bataille de succession, on peut d'ailleurs très bien faire cette hypothèse, eh bien, nous aurions eu un communisme très différent, probablement d'ailleurs allant assez rapidement vers un rétablissement au moins partiel de l'économie de marché, puisque c'était ça qui était dans le sens de Lénine. Autrement dit, le problème Lénine-Staline, il est difficile à apprécier, parce que comme tous les problèmes de ce genre, il est à la fois continuité et rupture. C'est Lénine qui invente le marxisme-léninisme, le parti-État, la terreur, incontestablement la dissolution de l'Assemblée constituante. Autrement dit, les bases du système sont incontestablement inventées par Lénine et Trotsky, d'ailleurs. Mais avec Staline, le système prend une tonalité, disons, shakespearienne qui ne... vous avez la transplantation des paysans, la liquidation des paysans ukrainiens dans les années 30, la liquidation du vieux parti bolchevique entre 34 et 37, 35 et 38 plus exactement. Tout ça n'est pas doit être attribué par Staline. Comme toujours dans ce type de problème, l'historien de l'Union soviétique doit à la fois considérer qu'il y a des traits communs au système depuis le début, mais il y a pourtant une histoire du système. Et que Brejnev, c'est pas la même chose que Lénine, c'est pas la même chose que Staline. Si bien qu'on pourra constamment, d'ailleurs je pense que ça sera fait, moi, dans l'avenir, on pourra constamment défendre l'Union soviétique en disant, en se réclamant de l'héritage de Lénine contre Staline.
Oui, je voulais poser une question à propos de la fin de l'Empire soviétique. D'après ce que vous avez dit, on a bien compris que l'idée communiste était morte déjà sous Gorbatchev. Mais ce que je n'ai pas compris personnellement, c'est je pensais que le communisme se terminerait dans une guerre formidable. Et je n'ai pas compris encore très bien pourquoi, je ne dis pas en 91, parce qu'en 91 c'était déjà trop tard à mon avis, mais comment en décembre 90, alors que le pouvoir communiste soviétique avait encore tout l'appareil militaire en main, comment a-t-il laissé se désagréger tout le glacis d'Europe orientale sans lever le petit doigt? Comment n'y a-t-il pas eu en quelque sorte un putsch tout de suite en décembre 90 pratiquement, qui aurait pu faire maintenir l'Empire soviétique un peu comme actuellement est l'Empire chinois, c'est-à-dire une espèce d'autoritarisme policier et militaire sans plus d'idées communistes derrière en fait?
Moi, je partage votre perplexité, monsieur, mais je pense que les historiens de l'avenir vont nous éclairer. Il y avait plusieurs scénarios de la fin de l'Union soviétique, quand on en faisait un, parce que dans l'ensemble, la majorité des gens, des autorités publiques, des intellectuels, pratiquement tout le monde pensait que l'Union soviétique était un régime plus solide qu'il n'était, y compris la CIA, qui faisait des rapports... Alors, pour ne rien dire des manuels scolaires français qui parlaient en termes dithyrambiques de ces économies. Alors, il y avait plusieurs scénarios. Moi, j'en avais discuté à l'époque. Il y avait le scénario Carrère d'Encausse, qui était la fin de l'URSS par les nationalités, l'Empire éclaté. Il y avait un scénario catastrophique, la guerre. L'Union soviétique. Il y avait le scénario plutôt trotskiste qui disait qu'ils seront renversés par les masses ouvrières. Mais personne n'avait imaginé que ça serait le secrétaire général du Parti communiste qui renverserait le système dont il était le premier bénéficiaire. Et il n'y a qu'une solution, il n'y a qu'une interprétation à ça, c'est qu'il n'a pas fait ce qu'il a voulu faire. Comme ça arrive souvent aux hommes politiques, en histoire, heureusement. Et que donc, à un moment, quelque chose lui a échappé. Et je crois, moi, j'ai tendance à imaginer, j'ai parlé un jour avec un conseiller de Gorbatchev, qui est à Paris en ce moment, qui s'appelle M. Gratchev, et qui a été, pendant toutes ces années, un des bras droits de Gorbatchev. Et ils ont eu la volonté de libéraliser politiquement. Ils n'ont pas voulu faire le processus chinois. C'est pour ça qu'ils ont libéré Sakharov, souvenez-vous, en 86. Quand ça a été le signal pour l'Occident. Ils libéraient Sakharov, ça voulait dire qu'ils cherchaient un appui dans la société. Je pense que comme ils ne savaient pas du tout ce que c'était que la démocratie, ils ont complètement ignoré la dynamique de la démocratie. À partir du moment où vous donnez la liberté aux gens, les choses vous échappent. Et il n'a pas du tout vu qu'à ce moment-là, je pense que son ambition, c'était de faire avec le vieux parti communiste soviétique, perclus d'ankylose, de rigidité, dominé par des vieillards. Je pense qu'il voulait faire un grand parti du président. Et qu'il voulait, Gorbatchev étant le président, qu'il voulait aller aux élections avec, en recomposant l'ensemble du parti autour de lui. Et ça, il n'a pas su le faire, visiblement. Il a présidé à une liquidation. Alors, il y a une deuxième inconnue dans cette affaire, c'est le moment où il refuse de tirer à Berlin. Depuis 30 ans, c'est surtout vrai en France, les présidents français ont peur de la réunification allemande. Mais depuis 30 ans, ils se rassuraient en disant « Les Russes ne laisseront jamais faire ça. » Ne laisseront jamais, parce que n'abandonneront jamais l'Allemagne de l'Est contre rien. Or, Gorbatchev l'a fait. Il a abandonné l'Allemagne de l'Est contre rien. Même pas contre la neutralisation. Et c'est vrai que pour un président français, on l'a d'ailleurs vu à l'époque, c'est une dure épreuve. Mais ça aussi, c'est mystérieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Qu'est-ce qui lui est passé par l'esprit quand il a d'ailleurs pris cette mesure tout à fait louable sur le plan humain de refuser de faire tirer sur les manifestants allemands? Quand Honecker voulait tirer, maintenant on le sait.
Je voudrais vous demander une précision sur le point suivant. À la fin de la guerre, un des points essentiels qui a fait rejeter le fascisme, et notamment le nazisme, qui était la forme allemande du fascisme, en somme, c'est la découverte des camps de la mort. Non seulement la méthode employée, mais le nombre de victimes. Or, par des procédés différents, famine, déportation, les régimes communistes ont entraîné une plus grande quantité de victimes. Et cette comparaison, elle n'a pas tellement été faite, elle n'a pas entraîné un changement dans l'opinion pro-communiste. Est-ce que vous avez une idée pour expliquer ce paradoxe?
Mais écoutez, c'est vrai qu'il y a... Les camps sont un élément de comparabilité entre les deux régimes, parce qu'ils sont d'ailleurs une invention soviétique avant d'être une invention nazie, et c'est une invention de Lénine, c'est pas une invention de Staline. La seule différence, c'est que les camps soviétiques, elle est importante, mais elle ne doit pas empêcher de comparer, c'est que les camps soviétiques font l'industrie de la mort. Les camps nazis, et notamment dans le gazage des juifs. Mais moi, je pense profondément, comme Aaron, comme Arendt, comme Vassili Grossman, mais c'est un des thèmes de mon livre, qu'on ne peut rien comprendre au siècle si on n'installe pas d'une certaine manière cette comparabilité, parce que c'est quand même trop frappant. Curieusement, contrairement un peu à ce que vous dites, monsieur, la comparaison est faite très souvent dans les années 30. Vous verrez, j'ai un chapitre de mon livre qui recense un peu, qui passe à travers les gens qui comparent nazisme et communisme à partir de 33. Vous en avez beaucoup. En France, en Allemagne, en Angleterre, et aussi aux États-Unis. Les plus connus en France, c'est Marcel Mauss, Élie Halévy, Simone Veil, qui constitue cette comparaison. Vous trouvez en Allemagne Karl Kautsky, le socialiste, Thomas Mann, à cette époque, un autre catholique allemand, Waldemar Gourian. Enfin, je repère tous ces textes et vous verrez, j'établis que la comparabilité et le thème des camps est traité très souvent. Ce qu'il y a, c'est qu'il est devenu tabou en 1945. Il est devenu tabou par un effet d'intimidation. N'ayons pas peur des mots. Parce que, disons là, la propagande, la campagne communiste avait fini par faire croire que si on était anti-soviétique, on ne pouvait pas être à la fois antifasciste et anti-soviétique. Que être anti-soviétique, c'était d'une certaine manière toujours être pro-fasciste. Et vous voyez, ça s'appuyait sur une évidence très forte qui était l'évidence de la guerre. L'argument tirait sa force moins de sa logique que de l'émotion qui naissait des morts de la guerre, du conflit. Il faut avoir vécu comme moi sa jeunesse pendant la Deuxième Guerre mondiale pour voir ce que ça a pesé sur nous dans les années qui ont suivi. Et donc, si vous voulez, l'antisoviétisme était constamment tenu sous la suspicion d'être favorable au fascisme. Et ça a intimidé beaucoup de gens, mais il y a eu une capacité d'intimidation. Moi, je l'ai ressenti dans mes premiers travaux sur la Révolution française, qui se situe dans les années 60. J'étais donc sorti de tout ça dans mes premiers livres. Et immédiatement, comme c'était un sujet sensible sur la Révolution française, j'ai eu beaucoup de mal à faire la preuve que je n'étais pas devenu fasciste. Parce que je faisais la critique de la Révolution française. Autrement dit, il y a eu cet effet d'intimidation qui a été surmonté en Amérique par Arendt, qui a fait un très beau livre sur le totalitarisme, où elle tisse cette comparaison, mais le livre ne sera traduit en France que dans les années 70. Et puis, en réalité, le thème n'est véritablement accepté en France qu'avec Solzhenitsyn, c'est-à-dire le milieu des années 70. Et même aujourd'hui, vous avez un peu raison, il peut choquer, mais enfin, je pensais qu'il choquerait plus, si vous voulez. Comme il est un des thèmes centraux de mon livre, et comme mon livre a du succès, j'en déduis que le tabou a diminué.
Autre question, madame ?
L'autre héros de votre livre, c'est-à-dire la bourgeoisie, il serait peut-être intéressant à Bordeaux de vous en expliquer davantage.
Oui.
Et je reviendrai auparavant sur les termes que vous utilisez, qui me paraissent très nouveaux, très importants dans certaines définitions de la démocratie. C'est l'autonomie du citoyen.
Oui.
Alors, est-ce que ce terme que vous avez choisi, moi je ne connais pas la littérature que vous pratiquez en général, je suis médiéviste. Néanmoins, ce terme d'autonomie, est-ce que vous en êtes l'inventeur ?
Non.
Quels sont vos...
Non.
L'autonomie d'une part, enfin qui a fait florès dans la notion collective de l'autonomie des universités, là nous sommes, je pense, avec beaucoup d'universitaires ici. Et d'autre part, alors, ne faut-il pas également jouer un peu sur les termes et sur la philologie ? Lorsque vous avez parlé de l'espoir, il y a l'espérance qui a été cet horizon chimérique, peut-être, à la fois d'une religion, de la religion chrétienne qui croit à un au-delà, mais aussi cet horizon messianique des premiers communistes, c'est l'espérance. Et le reste n'est que l'espoir. Et l'espoir à court terme.
Mais si vous voulez, je vous réponds tout de suite sur la deuxième question, après je reviendrai à l'autonomie. Je ne crois pas qu'on peut opposer les premiers communistes aux derniers, parce qu'il n'y a pas de raison de supposer que les communistes sont de mauvaise foi, même. Moi j'en vois beaucoup en ce moment, parce qu'ils me font la considération de discuter mon livre. Et il y en a encore en cette fin de siècle. Qu'est-ce qu'ils me disent ? Ils me disent que le communisme n'a jamais existé. Par conséquent, nous sommes d'accord avec ce que vous dites, enfin, nous, pas complètement, mais nous pouvons accepter ce que vous dites sur les tragédies du communisme au XXe siècle. Et le communisme n'ayant jamais existé, évidemment, dans la mesure où il n'a jamais eu d'incarnation, il est intact. C'est une manière de sauver l'idée, mais de lui enlever en même temps tout contenu historique, de lui enlever toute manière de le tester. historiquement. Mais qu'est-ce que c'est que l'idée communiste ? C'est l'idée d'universalité, c'est l'idée d'émancipation universelle des hommes. Ça ne serait pas une idée si puissante si ce n'était pas à la fois une idée émancipatrice et morale. Il faut prendre, même les illusions des hommes, il faut les prendre au sérieux. C'est-à-dire, il faut essayer de comprendre comment ils y sont entrés, comment tant de gens intelligents, comme en même temps de génies, sont entrés dans cette idée. Prenez Gide, par exemple. Gide, dans les années 30, qui est un chrétien protestant, christique, par religion de Jésus. Et c'est très net que pour lui, le communisme est une filiation du christianisme. Ce qu'il y a d'inouï dans le communisme et dans l'idée communiste, c'est sa capacité à s'ajuster aux différentes cultures. Je montre dans mon livre, par exemple, que c'est facile à comprendre pour les jacobins français, parce que les gens de la gauche française classique, venant de la Révolution française, jacobins, trouvent dans le léninisme une filiation, pardon, presque naturelle et facile. C'est déjà plus difficile à comprendre pour les chrétiens, mais vous avez, entre le christianisme et le communisme, l'idée d'émancipation universaliste. Ce qui fait d'ailleurs que tant de chrétiens ont été communisants au XXe siècle. Vous avez les socialistes anglais, par exemple, je montre dans mon livre des gens comme Bernard Shaw, le grand écrivain, les Webbs, les fondateurs du mouvement réformiste anglais. Ils font des voyages en Union soviétique au début des années 30. Ils reviennent, ils disent « Staline est un bon socialiste ». Ce sont les années les plus épouvantables. Il y avait des millions d'Ukrainiens au pôle Nord. Vous avez l'éradication de la paysannerie. Bernard Shaw et les Webb qui viennent de la tradition ultra-réformiste du socialisme anglais. Au point qu'ils n'ont pas été léninistes, mais qu'ils sont staliniens. Ils n'ont pas aimé Octobre, comme trop putschistes, trop jacobins. Mais ils aiment l'idée des plans quinquennaux, de la rationalité économique, de la construction du socialisme. Autrement dit, vous avez dans le communisme des capacités, je dirais, de canaliser l'utopie qui sont considérables et qui ne sont pas du tout uniques. C'est pas seulement les jacobins, c'est pas seulement les chrétiens, c'est pas seulement les... Et regardez ce qui s'est passé après la guerre. L'extension universelle. Je sais bien qu'il y a un problème de pouvoir aussi. L'Union soviétique était une superpuissance et les gens n'aiment pas seulement les idées, mais ils aiment le pouvoir. Mais enfin, il y a eu quand même dans le maoïsme, il y a eu quelque chose, moi, que je n'essaierai pas de traiter parce que je suis très ignorant en matière d'histoire chinoise, mais il y a eu une symbiose assez bizarre pour un occidental. Le christianisme n'a jamais eu des résultats aussi brillants en Chine que le communisme. Autrement dit, ce qu'il y a à comprendre dans l'idée communiste, c'est précisément cette fascination et la multiplicité de ses aspects sur tant de familles différentes. Quant à l'autonomie, de deux mots, parce que comme vous êtes médiéviste, vous savez le grec. L'autonomie, ça veut dire ne recevoir des lois que de soi-même. Et effectivement, le postulat de base des sociétés démocratiques où nous vivons, vous et moi, tout le monde, c'est que le citoyen moderne n'obéit qu'à lui-même. C'est l'inventeur, c'est Rousseau. C'est Rousseau et Kant. Le fond de la société moderne, c'est qu'elle doit composer avec l'autonomie de ses membres. C'est ce qui en fait l'extrême difficulté. La société moderne est la première société dont chaque citoyen est supposé n'obéir qu'à lui-même. Et quand il obéit aux lois, c'est parce qu'il les a faites, ou par l'intermédiaire de ses représentants. C'est l'ABC de la démocratie. C'est ce qui rend d'ailleurs le problème de l'obéissance si problématique en démocratie, puisqu'au fur et à mesure que les démocraties avancent, les hommes ont tendance effectivement à regarder comment ils obéissent. Et pour terminer mon raisonnement, la faiblesse des sociétés bourgeoises, c'est qu'elles n'ont jamais aucun titre à exiger l'obéissance. C'est le début de mon livre. Pourquoi ? Parce que la bourgeoisie est une classe économique.
C'est une classe dont la performance n'a pas de légitimité particulière. Celui qui est riche aurait pu être pauvre, celui qui est pauvre aurait pu être riche, ce sont les chances de la vie. Autrement dit, à la différence des aristocraties, les bourgeoisies n'ont jamais de titre à dominer que ceux que lui consentent ses citoyens. Et du coup, les sociétés démocratiques ou les sociétés bourgeoises, si vous voulez, dans lesquelles nous vivons, sont probablement les plus fragiles qu'est connue l'histoire, et en tout cas celles qui produisent le plus d'ennemis d'elles-mêmes. Il y a quelque chose qui est frappant dans les sociétés modernes depuis 200 ans, c'est le nombre d'adversaires de la société que produisent ces mondes. Si vous supprimez l'hostilité à la société bourgeoise, vous n'avez plus de littérature française au 19e siècle. Vous n'avez plus de littérature allemande. J'ai dit 19e. C'est vrai qu'il y a quelques libéraux, mais il n'y en a pas beaucoup. Autrement dit, vous voyez ce que je veux dire, madame. Je voudrais historiser l'idée communiste dans la vulnérabilité particulière de la société bourgeoise. C'est au fond la forme qu'a pris au XXe siècle l'hostilité à la société bourgeoise.
Enfin, c'est une grande réussite que vous avez.
Pourquoi?
D'avoir réhabilité cette caste si floue.
Mais je ne la réhabilite pas, je dis que son gouvernement est toujours problématique.
Il semble qu'au printemps 41, les cadres des brigades internationales en Europe de l'Ouest ont été contactés par l'internationale et je dirais presque mobilisés. Alors n'est-ce pas un peu cette notion, ne contredit-elle pas ce fameux problème de la surprise de Staline en face de l'invasion allemande?
Oui, c'est très compliqué. Je n'ai pas des idées tout à fait faites sur ce problème. D'ailleurs, dans mon livre, je laisse la question ouverte parce que je suis incapable de la trancher. Il y a effectivement une thèse qui dit que Staline a été pris totalement impromptu par l'attaque du 22 juin 1941, qu'il a d'ailleurs, que ça explique l'effondrement des défenses allemandes dans le premier mois de la campagne, et aussi l'espèce de silence de Staline. Vous savez, l'invasion allemande a lieu le 22 juin, et Staline, il y a des communiqués du gouvernement, et Staline ne parle aux Russes que le 3 juillet. Il reste 10 jours silencieux. Khrouchtchev dit dans son rapport qu'il a été prostré. Est-ce que c'est Khrouchtchev qui... Et qu'il ne réagit dans ce fameux discours où il parle pour la première fois aux Russes en disant « mes frères », et qui est le discours du 3 juillet où il reprend les choses en main. Alors, contre cette thèse, il y a quand même le fait que dès l'été 40, Staline commence à se méfier un peu d'Hitler. Il a fait le pacte germano-soviétique en août avec les accords subséquents pour déjouer les calculs des franco-anglais, pour lancer Hitler contre la France et l'Angleterre, mais il a cru, comme tout le monde à l'époque, que la France résisterait plus longtemps. L'effondrement français de juin 40 a été une surprise pour Staline, comme pour tout le monde, comme pour les Américains, comme pour Churchill, et d'ailleurs comme probablement pour les gouvernements français. Et du coup... Pour Staline, c'était beaucoup trop tôt, parce que le calcul de Staline en 1939, c'est que c'est la guerre longue entre la France et l'Allemagne. Lui repense naturellement à 14-18. On pense toujours aux guerres précédentes. C'est la guerre longue, la Russie est en dehors, elle continue à travailler, à faire ses forces, elle a mangé la Pologne, les pays baltes, donc c'est uniquement du gain, et Staline n'interviendra qu'après plusieurs années, au moment où le vainqueur se dessinera. C'est ça le calcul, qui est d'ailleurs... Je dirais, d'un point de vue russe, Staline est un grand homme d'État. Incontestablement, c'est un homme qui a perçu l'enjeu de la Deuxième Guerre mondiale de façon très cynique, mais enfin en même temps très brillante pour son pays. Et alors, aussitôt que la France est effondrée, en juin 40, Staline prend des gages dans l'été 40. Il prend la Bukovine. Il annexe les Pays-Baltes parce qu'il voit que Hitler n'a plus rien à faire. et que donc le risque d'une attaque contre la Russie est plus grand. Et il semble qu'à la fin de l'année, en novembre, il y a le voyage de Molotov chez Hitler, où il trinque, et Molotov refuse de s'avancer trop dans l'alliance avec Hitler, en maintenant les cartes, et que... vous savez qu'à cette époque, les partis communistes en Occident, comme le Parti communiste français, ont eu tendance à discuter avec les Allemands. Et il semble que dès l'octobre 40, les instructions de l'international sont d'être très prudents avec les Allemands. Autrement dit, que les instructions de prudence sont antérieures au 22 juin. Voyez, au 22 juin que Staline... Alors, cette thèse est probablement juste. Qu'elle n'explique pas, c'est quand même que les premières semaines du conflit donnent du côté russe une telle allure d'impréparation. Parce que si Staline se méfie dès la fin 40, comme il y en a des signes, on ne comprend pas pourquoi les Allemands rentrent en Russie si facilement, en faisant des centaines de milliers de prisonniers, etc.
Et pour quelqu'un de cynique et de machiavélique comme Staline, que représentent quelques millions de Russes qui vont mourir ? Il y a l'espace russe.
Enfin, ils sont arrivés à 30 km de Moscou, quand même.
Je voudrais... Oui, je crois que si vous pouvez passer le micro, en attendant qu'il arrive, je vous pose une question. Vous datez le suicide du communiste de 56. Néanmoins, bon, il a survécu. Quelle importance vous accordez à Sakharov, à Jean-Paul II, à Waleza ?
Énorme. Je pense qu'ils ont été très importants. Jean-Paul II est derrière Solidarnosc. Tout ce que font les Polonais dans la dernière période, c'est parce qu'il y a l'Église catholique polonaise et Jean-Paul II. Jean-Paul II a joué un rôle énorme, probablement le plus important. Puis les églises, parce qu'il y avait aussi la force des églises catholiques. Sakharov, moi j'ai une immense admiration pour lui, mais on ne peut pas dire qu'il ait eu l'impact de Solzhenitsyn. C'est Solzhenitsyn qui, en Occident, surtout en France, a réellement fait un effet choc. Et puis, il faut faire sa place. Les historiens n'aiment pas ça parce qu'ils n'aiment pas le personnage, ni les journalistes, à Reagan. C'est tout ce qu'on veut, ce vieil acteur de série B. Mais il a fait peur aux Russes. Son plan de défense spatiale, qui faisait rire tout le monde aux États-Unis, les Russes l'ont pris au sérieux. Et incontestablement, la présidence Reagan a été importante dans l'effondrement russe, dans l'effet d'intimidation militaire qu'a joué l'Amérique. Autrement dit, il y a eu beaucoup... Il ne faudrait pas déduire de ce que je dis que Gorbatchev est le seul acteur. Il y a eu beaucoup d'éléments qui jouaient dans le sens de l'implosion. Et probablement... Même si Gorbatchev n'avait pas existé, le système n'aurait pas beaucoup passé le 21e siècle et beaucoup d'années. Il y avait visiblement des éléments d'essoufflement, de corruption au sens Montesquieu du système qui était très fort. Par conséquent, comme toujours, les grands hommes n'interviennent qu'à l'intérieur de contraintes, de situations. Ce qu'on peut dire, c'est que probablement Gorbatchev a avancé de 10 ou 20 ans ou 30 ans la fin du système. Regardez la Chine. Si vous supposez à Gorbatchev une stratégie chinoise, il serait encore au pouvoir. De maintien de la dictature et d'injection de l'économie de marché dans l'économie.
Monsieur ?
Oui, mais moi j'ai été beaucoup choqué en fait par le titre de votre livre. Enfin, parce que le passé d'une illusion, pour moi ça veut dire idée morte, quoi. Et enfin, je sais pas, le communisme aussi a essayé en partie de se réaliser dans des expériences telles que dans l'économie sociale avec le coopérative. Et ça, c'est aussi en dehors du système soviétique. Parce que là, on pense toujours communiste et système soviétique. Et aussi, enfin, on voit quand même, il y a aussi, avec le Chiapas en ce moment, il y a quand même une insurrection qui se fait. Et on veut remettre aussi en cause le système capitaliste, quoi. Et je crois que c'est l'idée force du communisme. Alors, est-ce que vous pensez justement que c'est pour vous c'est une idée morte ? Enfin, moi je pense que non.
Mais... non, mais vous ne pouvez pas dire qu'une illusion c'est une idée morte, ça parle le même sens. Si vous donnez un sens au mot en français, une illusion c'est pas une idée morte, c'est une illusion. C'est une espérance. Et rien dans mon titre n'indique qu'elle est morte puisque je mets le passé.
je me suis battu contre mon éditeur qui voulait mettre la fin. Le passé veut dire le passé, ça veut dire qu'il y a une tranche de ce passé qui est morte, qui est communiste. Il ne faut quand même pas échapper au fait que ça s'est appelé communiste, tout ça. Oui. Quand vous dites communisme à un homme du XXe siècle, il comprend soviétique. Il ne comprend pas Proudhon. Ou autrement dit, ni la social-démocratie suédoise. Autrement dit, j'appelle communisme ce qui s'est appelé communisme. Ce qui est après tout historiquement défendable. Alors, est-ce que ça veut dire que la critique du capitalisme est morte? Pas du tout. Je suis persuadé que tant que le capitalisme existera, il va susciter des oppositions multiples, constantes, et pour la bonne raison qu'il n'est pas aimable. Il n'est pas aimable, mais il a une capacité, pour ainsi, aujourd'hui, jusqu'à maintenant, non surpassée, il a des capacités de productivité. Le secret du capitalisme, il est très simple. C'est la manière de produire pas cher. Beaucoup de biens. Personne, là, les communistes prétendaient qu'ils avaient une manière de produire des biens pas chers et mieux, dans une société plus juste. Le système s'est cassé la gueule. Par conséquent, nous sommes de nouveau pris, nous, dans nos sociétés, entre les performances économiques du capitalisme et la critique du capitalisme, qui, loin d'être morte, elle est partout. Vous lisez un journal français, vous n'avez que de la critique du capitalisme. Même la droite est anticapitaliste en France. Si j'ai bien compris, le prochain président de la République, enfin, ce n'est pas un adorateur du capitalisme. Et vous ne rendrez jamais le capitalisme aimable, sauf peut-être chez les peuples qui en ont fait une sorte de religion nationale comme les Américains, et qui est à ce titre une exception. Effectivement, les Américains sont un peuple bourgeois qui vit dans un relatif bonheur, sa condition bourgeoise. Mais nous, les vieilles nations d'Occident...
Avec des inégalités fantastiques.
Oui, oui, mais avec cette idée que le plus petit du plus bas de l'échelle peut monter. Qui fait que personne n'a honte d'être riche aux États-Unis. Que c'est au contraire une preuve d'intelligence. Tandis que dans nos sociétés, pour des raisons historiques, et d'ailleurs, il y a beaucoup... Il n'y a pas que des défauts à ça, l'argent est méprisé, les légitimités d'argent ne sont pas considérées, et c'est ce que je disais tout à l'heure, là, il y a un déficit de légitimité profond dans les classes dirigeantes des démocraties. Donc, je pense que ça continuera, et je pense que probablement au XXIe siècle, s'inventeront de nouvelles idées, dont je ne vois pas la trace aujourd'hui, qui feront penser aux hommes qu'on peut liquider le capitalisme tout en maintenant la haute productivité. Ce que je dis simplement, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui dans le monde, à ma connaissance, un livre, un auteur, un homme politique, un parti qui a la moindre idée de ça. Si vous en avez un, citez-le moi.
Monsieur ?
Oui, je vous demande pardon, là. Je voudrais savoir, quel rôle attribuez-vous au communisme dans l'échec, ou plutôt le quasi-échec du processus de décolonisation, en particulier en Afrique?
Il est accessoire, je dirais. La responsabilité principale, c'est que la décolonisation s'est très mal faite. C'est un processus dont nous commençons à voir aujourd'hui à quel point il s'est fait de façon dramatique. Prenons l'Algérie. Il n'était pas du tout écrit d'avance que 1200 000 Français avait à quitter le pays pour que le pays devienne gouverné par les Algériens. Ça s'est fait comme ça parce qu'il y a un héritage politique et moral de la colonisation dont nous commençons à découvrir le poids et qui est terrible, qui est d'ailleurs en partie injuste parce que la colonisation n'a pas été seulement cette horrible oppression d'une population par une autre, cette horrible arrogance coloniale sur des masses indigènes, ce qu'elle a été aussi. Mais aujourd'hui, elle n'est plus que ça. Et elle a laissé des traces psychologiques que chacun peut mesurer quand il va dans ces pays. C'est quand même extraordinaire de penser que le français est interdit à l'université d'Alger. C'est absurde. Comment ?
L'Algérie est quand même un cas tout à fait spécial.
Écoutez, oui, mais enfin, ça s'est pas très bien passé en Afrique noire. Voilà. Oui. Et alors... Ça, c'est la toile de fond. Est-ce que c'est rattrapable? Est-ce que ça l'est pas? Bon, c'est très compliqué, mais il y a une toile de fond avec la faiblesse des élites indigènes qui est très, serait dommageable. Alors là-dessus est arrivée cette idée effectivement magnifique d'un parti unique avec les sciences de l'histoire et d'un court-circuit vers la modernisation qui permettrait d'échapper aux malédictions du capitalisme. Au fond, c'est ça la séduction du communisme dans le tiers-monde. On va échapper à ce stade bourgeois de l'humanité qui nous a colonisés, et on va passer du stade colonial au stade socialiste, au stade communiste, en faisant l'économie de la libre entreprise par la mobilisation des ressources. Et effectivement, vous avez eu, dans les années 60-70, un effrayant investissement soviétique en Afrique, avec des absurdités économiques sans nombre. On envoyait des chasse-neige au Zaïre, etc. que seule la planification rigide peut pratiquer. Alors, comme élément, je dirais, aggravant, regardez l'Algérie, là encore, c'est un pays riche, comme élément aggravant de la décolonisation, l'illusion communiste a joué, un rôle central. Mais ce n'est que dans une période récente, alors ça date d'il y a 10 ans, qu'on a découvert que le communisme était inefficace économiquement. Et encore il faudra quand même qu'on fasse des analyses plus serrées que ça, parce que moi, quand j'étais jeune, et même après, l'idée, c'était que c'était une société horrible, dictatoriale, idéologique, enfin c'est Orwell, mais que ça fonctionnait. Et le test du fonctionnement, c'était l'armée. C'était le Spoutnik, c'était la performance technique qu'on accordait à l'Union soviétique, au point que pendant une période, vous vous souvenez, même des gens comme Aron, en France, ont plus ou moins flirté avec le thème des convergences des sociétés industrielles dans les années 60. À savoir, bon, en s'industrialisant, l'Union soviétique va se démocratiser par force en créant des nouvelles classes, etc., qui était une thèse fausse, mais j'ai retrouvé récemment quelque chose qui va vous faire rire. Il y a un article de Sauvy, grand démographe français des années 50, qui s'inquiète des progrès économiques de l'URSS et qui dit, si ça continue, on va avoir affaire à une émigration de la classe ouvrière française en Union soviétique. Et il y a une polémique entre Aron et Sauvy. Aron lui dit, mais non, ça va pas si vite que ça. Mais c'est pour vous montrer que nous revenons de loin. Dans l'illusion, ça a été une des très fortes illusions de l'idée communiste, qui est une vieille idée occidentale, la maîtrise de la nature par la technique, la domination de la nature par la raison.
Monsieur, vous avez tout à l'heure évoqué Reagan, mais je pense que bien avant lui, Kennedy a marqué un coup d'arrêt avec les fusées installées à Cuba.
Oui.
Je pense que c'est un événement qui a été considérable à l'époque.
Il faut rendre hommage de ce point de vue-là, monsieur, à toute la politique étrangère américaine. Depuis 1947. Ils ont décidé ça. C'est même curieux parce que les Américains ne sont pas un peuple qui aime la politique étrangère. On peut même dire qu'ils la détestent. Et à ce moment-là, ils ont de nouveau articulé leur rêve américain contre le totalitarisme. C'est-à-dire que les Américains sont un peuple qui ne peut se mobiliser que pour la démocratie, qui fait partie de leur code génétique. Et pendant 50 ans, au fil des différentes élections américaines, républicains, démocrates, au fond, la politique étrangère n'a pas changé. Ce qui montre, contrairement à ce que disaient beaucoup de gens à cette époque, les démocraties sont capables de politiques étrangères suivies, cohérentes et même coûteuses.
Vous vous citez George Kennan.
Oui.
Il est très vieux aujourd'hui, mais que vous rencontrez.
Oui.
Et vous le citez vers la fin et un des actes les plus curieux qui a été diversement apprécié aux États-Unis, c'est lorsqu'il a permis à Svetlana d'émigrer aux États-Unis et de s'y installer pour échapper à l'oppression post-stalinienne.
Oui.
C'est tout de même un événement tout à fait étrange, mais intéressant à rappeler, justement pour commenter cette attitude des États-Unis.
Je vais même aller plus loin, madame. Je vais vous faire une confidence. J'ai dîné avec la fille de Staline.
Ah, voilà, parce que moi, j'étais...
Avec une longue
j'étais, j'étais à Princeton en 69, 70. Elle habitait là, elle était mariée avec un architecte américain à l'époque.
C'est ça.
Et il y avait trois femmes célèbres à Princeton. Il y avait la fille d'Einstein, il y avait la veuve d'Oppenheimer, et il y avait la fille de Staline. C'était les trois vedettes. Et dans des dîners de professeurs, on montrait Svetlana, qui était une femme qui m'a beaucoup intimidé en pensant d'où elle venait.
Je voudrais, pour conclure, vous poser une question qui va nous amener un petit peu à l'actualité. Dans l'article qu'il a fait sur votre livre, Georges Samprin relève un petit peu le problème de la transition en disant que, en fin de compte, on s'est bien remis des régimes fascistes, mais qu'on se remet difficilement des régimes communistes.
Oui.
Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce sujet ?
Samprin, c'est un exemple bien. Comme il est espagnol, il vient d'un pays où le post-franquisme s'est magnifiquement passé. Parce qu'il y avait un bon parti communiste, un bon parti socialiste, un bon roi, un excellent roi, une bonne droite, et puis je ne sais pas quoi encore. Et puis Franco qui avait préparé sa suite, qui avait assoupli son régime 10 ans avant de mourir. Autrement dit, dans le cas espagnol, contrairement d'ailleurs à tous les pronostics qui étaient faits à l'époque, souvenez-vous, tout le monde parlait de la guerre civile espagnole, ça s'est passé de façon extravagante. Au point qu'aujourd'hui en Espagne, vous le savez bien, il y a encore des statues de Franco à côté de statues républicaines. On a gardé les deux iconographies, y compris celle de ce régime qui pourtant a eu des côtés totalement horribles, surtout dans sa première phase. Donc Samprin trouve que l'après-communisme se passe très mal, et c'est vrai, mais d'une certaine manière, l'après-communisme est beaucoup plus difficile que l'après-fascisme, parce que la société a été beaucoup plus brisée, beaucoup plus durablement. Brisée par le communisme, surtout en Union soviétique, où le système a duré 3 générations, que, par exemple, dans l'Allemagne nazie, où il n'a duré que 10 ans. Pourquoi ? Ben, quand vous supprimez la propriété privée dans une société, vous rendez la société esclave de l'État. La société russe d'aujourd'hui est une société sans paysannerie, c'est une première dans l'histoire de l'humanité. Ça ne s'est jamais vu. Quand vous vous promenez à 50 km de Moscou, vous regardez des villages qui sont décrépits et à moitié morts, et dans la campagne, subitement, vous avez de ces HLM 1950, vous savez, dont nous avons tous eu le secret après la guerre, affreux, au milieu d'une étendue absolument déserte. Le plat, et c'est ça la campagne soviétique, où d'ailleurs la productivité du travail est une des plus basses de la productivité rurale, et on se demande comment on va traiter le problème, parce que il n'y a plus de villages, ou il n'y a plus beaucoup de villages en Russie, par exemple, il n'y a pas d'équipement, ils n'ont que d'énormes tracteurs pour qui traînent des socs pour labourer sur 50 mètres de front. Alors c'est pas épatant si vous avez une petite propriété. Et il n'y a pas de banque. Autrement dit, c'est le problème de la poule et l'œuf est très difficile à résoudre. Comment redémarrer ? C'est un pays qui a déshonoré la loi. Aujourd'hui, il y a tant de délinquance à Moscou parce que la police est déshonorée, pour ainsi dire, du fait du totalitarisme antérieur. Il y a je dirais, les classes sociales ont été détruites, hélas. La société russe d'aujourd'hui est une sorte de société d'individus atomisés qui ont perdu leur solidarité naturelle. C'est très difficile à recomposer. Moi, personnellement, je ne pense pas que l'Union soviétique, l'ex-Union soviétique, va recomposer un corps politique facilement, ni vite. Je pense que ça m'étonnerait beaucoup qu'on évite des phases, disons, dictatoriales ou autoritaires, pourvu qu'elles soient d'ailleurs éclairées, ça serait encore un moindre mal. Autrement dit, il faut bien prendre la mesure de ce que ça a été. C'est aussi la grande différence avec la Révolution française, si vous y réfléchissez. La Révolution française a été un formidable événement torrentiel qui a bousculé la société, mais elle n'a pas détruit la société. Dans la France de Balzac, vous avez les mêmes villages, les mêmes clochers, les mêmes paysans, les mêmes curés, les mêmes châtelains que dans la France de la fin du XVIIIe, ou si vous n'avez pas les mêmes, c'est un peu pareil. Le tissu social de la France n'a pas été chambardé par la Révolution française, même si les nobles se sont absentés pendant 10 ou 15 ans. Tandis que le tissu social de la société russe est cassé. Il n'y a plus de paysannerie, il y a une vaste population urbaine qui vivent d'une industrie non productive, qu'on est obligé de continuer. En réalité, si on met la Russie aujourd'hui dans le marché mondial, on a tout de suite 30 millions de chômeurs. Parce qu'ils n'ont rien à vendre à des prix compétitifs. Et autrement dit, la solution de transition vers le capitalisme, sans traumatisme social, est extraordinairement difficile. La résurrection aussi de partis dans une population qui a été très largement déculturée est très compliquée. Moi, je vais faire des cours à Moscou tous les ans, comme ça, de recyclage en philosophie politique, Rousseau, Tocqueville, Montesquieu. Et même les livres sont difficiles à trouver. Même l'héritage de la tradition n'est plus acquis. Donc il faut reprendre les choses de loin. Il n'y a qu'un secteur probablement où l'Union soviétique, mais je ne le connais pas, reste brillante, c'est la technologie. Technologie militaire, l'ensemble des sciences. Mais là encore, il faut craindre l'émigration de leurs savants. Et au niveau des passions politiques, j'en viens à votre dernière question, il est évident que dans un pays qui est passé en moins de 10 ans du rôle de superpuissance mondiale au rôle de pays assisté, vous allez avoir une frustration nationale gigantesque. Il n'y a pas besoin d'être très prophète pour comprendre que la passion nationale sera encore plus forte qu'en Serbie. Que ça va être le grand mobilisateur de ce pays. Alors jusqu'à quel point la passion nationale n'est pas forcément catastrophique, elle peut être canalisée de façon à mobiliser le minimum de civisme nécessaire. Là encore, il ne faut pas forcément prévoir le pire, mais enfin l'avenir n'est pas rose.
Merci François Furet.